Jusqu'à 10h avec toutes vos questions au 05 53 53 82 82 et autre surprise, un trombone France Bleu Périgord est à gagner, pas l'instrument de musique, hein, le petit truc pour lier vos feuilles entre elles, avec un nouveau jeu que vous propose Jean-Louis à présent.
Ah bah oui, les deux mains sur le buzzer, vous êtes
voilà,
prêts?
Une tac. Plante à découvrir, mesdames, messieurs, un trombone est en jeu.
Je suis couvert de fleurs bleues de mars à juillet, je suis mellifère et nectarifère. On mange mes jeunes feuilles en salade, du coup on mange mes fleurs aussi en salade. Oui. On fait de la soupe avec mes feuilles, on m'utilise en cosmétique, on réalise du purin pour booster les plantations de printemps, je suis...
La bourrache.
Oh là, quel talent. Bah oh vous gagnez la boîte de trombone.
Merci beaucoup.
Mais oui, l'indispensable bourrache au jardin commence à fleurir maintenant. Alors elle commence à fleurir maintenant, celles qui ont été plantées l'année dernière ou qui se sont ressemées l'année dernière. Maintenant, c'est intéressant d'en replanter une autre courant avril, d'en replanter une autre au mois de mai. Comme ça, on fait vraiment une longueur de floraison qui est très importante puisque la plante est mellifère et nectarifère. Donc mellifère, elle attire évidemment tous les insectes pollinisateurs. Donc autant dire que si on met un ou deux plants de bourrache dans le coin où on a les tomates, les haricots verts, etc., bah c'est plutôt pas mal. Et puis c'est nectarifère parce que ça produit beaucoup de nectar, donc il y a du casse-croûte pour les petites bestioles, c'est pas mal. Quand je disais qu'il fallait en planter, alors on va pas se ruiner, hein. J'ai vu des plants en godet à 2,50€, j'ai vu des plants en pot de 1 litre, ce qui fait déjà une jolie petite plante, entre 3,50€ et 4,50€, donc c'est pas mal. Faut juste se méfier d'une petite chose, ça fait 1 mètre carré. Donc on va pas mettre ça entre deux petites plantes dans le jardin, on prévoit vraiment un bel espace, elle va se ressemer sur place, si l'hiver est pas trop froid, la souche va se régénérer, c'est quand même pas mal. Du coup on dit qu'elle est semi-vivace, mais d'en replanter, alors déjà c'est très beau dans le jardin, c'est très utile, et ça va mettre des ambiances d'insectes un petit peu partout dans le jardin, c'est très très important. Proche des légumes fruits, c'est presque indispensable puisque il y a de plus en plus de raréfaction d'insectes pollinisateurs. Ben, ma foi, ces belles fleurs bleues les attirent. Toutes les fleurs de vos légumes fruits et voire de d'autres fruitiers, pardon, vont être visitées par les insectes. C'est vraiment important d'en planter. J'y tiens. On a mis une photo sur le Facebook d'un plant que j'ai à la maison. C'est un petit godet que j'avais mis l'année dernière au mois de mars. Il fait 1 mètre carré. J'ai pas compté les fleurs, mais surtout, je me suis amusé l'autre jour quand j'ai fait la photo à regarder le nombre d'abeilles qu'il y avait dessus et de tout type d'abeilles. Et ça, c'est vraiment génial. Alors moi, je m'amourache de la bourrache.
Oh, magnifique. Vos questions jardin ce matin à Jean-Louis jusqu'à 10h. 05 53 53 82 82.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord jusqu'à 10h.
Il est un artiste qui, s'il n'avait jamais joué de la gratte électrique ou employé de téléphone, n'aurait jamais rien fait dans la vie ou n'aurait jamais été qu'une illusion. Ce monsieur, c'est Jean-Louis Aubert.
Qu'est-ce qui te fait courir après un autre toi-même pour que tu t'aimes? Hey ! Qu'est-ce qui te fait nager contre le sens du temps pour au fond patauger dans le contre-courant? Qu'est-ce qui te fait vouloir posséder ta propre cage? C'est juste une illusion, à peine une sensation qui dirige tes pas et te montre du doigt où tu vas, où tu vas. Juste une illusion, comme une bulle de savon qui s'approche de toi, que tu touches du doigt, puis qui s'en va. Thank you. juste une illusion. Rien qu'une simulation. Ta stimulation.
Une illusion avec Jean-Louis Aubert.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
Et vos questions au 05 53 53 82 82 jusqu'à 10h. Jean-Louis, nous allons à Boulazac. Dany, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu l'excellente idée de nous faire parvenir sur bleupérigord@radiofrance.com une photo de vos lilas. Que se passe-t-il, Dany?
Eh bien, ce sont des lilas que j'ai bouturés par marcottage il y a à peu près 7-8 ans, donc qui ont été plantés. Ces lilas n'ont jamais donné de fleurs correctes. Ce sont toujours des petits boutons, comme vous pouvez voir sur les photos. Alors, ils font de la feuille, beaucoup de feuilles. Mais alors, il y a des lilas blancs, il y en a un mauve. Et c'est pareil pour tout. Je crois que j'en ai 5 pieds, oui, c'est ça. On les a mis en haie.
D'accord. Bon. Ben, va falloir être un petit peu radical. Je vais vous expliquer pourquoi. J'entends Christophe.
Je le sens venir, celui-là.
Non, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le lilas déteste les terrains caillouteux. Le lilas adore les terres profondes, légèrement humides et riches. Donc, ça m'a pas l'air d'être le cas.
Non, j'ai un terrain très caillouteux.
Bon, donc comme c'est là, dans l'immédiat, ils seront pas beaux cette année, ça, il y a aucun doute. Alors, cet après-midi, sécateur, et on va commencer par ça. Toutes les petites brindilles, toutes les petites branchettes, etc., n'ont aucun intérêt, vous les éliminez. Vous sélectionnez 4-5 branches, 6 branches, on va dire les plus belles, et ces branches-là, vous les rabattez de moitié. Donc, une fois que la taille va être faite, qu'est-ce qu'il va vous rester? Il va vous rester 5 ou 6 tuteurs, grosso modo, et plus une seule brindille. Alors, pas de panique. Tout autour, comme le sol est encore humide, ça, c'est la première étape que je vous fais faire, parce que en hiver prochain, il y aura autre chose à faire. Mais là, donc, une fois que la taille est réalisée, si possible, vous donnez un petit coup de houe ou de binette autour pour que ce soit un petit peu décompacté. Une baramine ou un manche d'outil qui est cassé, qui va pouvoir s'enfoncer dans la terre facilement. Vous me faites 7-8 trous tout autour. Alors des trous, vous savez, on enfonce, on appuie un peu dessus, ça s'enfonce de 10-15 cm, c'est suffisant. Et vous y mettez une poignée d'engrais. Première étape, ça c'est fait. Ils vont redémarrer, ils vont faire beaucoup de pousses pour un peu que vous pensiez en été à les aider un peu avec un arrosage tous les 15 jours, 3 semaines pour pas qu'ils aillent trop loin dans la déshydratation, quitte à mettre un peu de paille au pied, ça, ce sera une première étape. Mais quand on sera rendu fin novembre, début décembre, et alors après, vous aurez décembre, janvier, février pour le faire, à 30 cm du tronc, une bêche, et vous faites une tranchée circulaire tout autour. Une tranchée large d'un fer de bêche, profonde d'un fer de bêche. Alors vous allez vous amuser parce que vous me dites qu'il y a des cailloux. Et dans cette tranchée, moitié terre, moitié compost ou moitié terreau-plantation, de façon à ce qu'en fait, vos lilas récupèrent un volume de terre pour se réinstaller correctement. Parce que comme ils sont là, ben ma foi, ils font pas grand-chose et ils ne feront pas grand-chose si rien n'est fait. Alors l'engrais, vous mettrez si possible de l'engrais organique. Vous savez, ça se trouve sous forme de pellet, là, dans tous les points de vente, il y a ça, c'est très efficace. Une bonne poignée dans chaque trou. la taille, la sélection des branches, on élimine les brindilles, hop, l'automne prochain, ce sera un peu de terrassement. Ben, vous pouvez espérer les premières fleurs de belle qualité, ce coup-ci, à partir du mois d'avril de l'année prochaine. Donc, d'accord, un petit peu de boulot, mais ça vaut le coup de tenter, parce que ma foi, on voit bien qu'ils sont pas vigoureux, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de branches, donc il faut les reformer en plus. Voilà.
Oui, parce que j'avais mis au départ, pendant les trois premières années, j'avais mis de l'engrais, même du compost de jardin autour. Mais je pense que c'était pas suffisant. Quoi.
Non, comme vous dites, exactement, c'est pas suffisant. Et sincèrement, l'engrais que je vous fais mettre là, rapidement, après avoir nettoyé et taillé, fin juin, si vous voulez en remettre un peu, c'est pas gênant. Hein. Il faut vraiment qu'il retrouve de la vigueur dans un sol qui resterait un petit peu frais cet été, ça les aiderait à se réinstaller.
Oui, bon,
voilà, Dani.
Après ce traitement, si ça marche, vous enverrez des photos.
Ah ben, voilà, intérêt.
Bon sécateur à vous cet après-midi.
Ah oui, beaucoup de travail, merci.
Vos questions ce matin à Jean-Louis pour vos plantes, votre jardin, 05 53 53 82 82.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord avec les menuiseries Segui, portes et fenêtres fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie-segui.fr.
Native de Belgique, elle a aussi la nationalité canadienne et accessoirement, elle chante, elle a un très léger filet de voix. Voici le nouveau titre de Lara Fabian, Ta peine.
Comme avant, avant que je t'aime, puis qu'on se perde, avant que la vie ne soit trop chienne, reste, reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi, toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil. Pareil, pareil, c'est toujours pareil avec la peine. Tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. Il sera comme des enfants qui se souviennent. Par, par où ton cœur va bien. Par, mais surtout reviens. Que tu aimes, il ne sait rien de ce que tu es. Pareil, pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine, je la jetterai à la mer. Mon capitaine, il sera comme des enfants. C'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants qui se souviennent.
Ta peine avec Lara Fabian.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord.
Avec vos questions au 05 53 53 82 82, nous sommes à Saint-Astier. Jean-Louis, Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un problème avec votre eucalyptus, que se passe-t-il ?
Ben en fait, je suis tombée amoureuse d'un joli eucalyptus il y a 4 ans à peu près, et je l'ai planté tranquille, mais sans trop savoir ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'il a grandi très vite, en sachant que j'ai déjà coupé la tête 2 fois. Et là, il fait à peu près 4-5 mètres de haut. Mais je sais pas, dû peut-être la variété ou les fortes chaleurs, cet arbre a tendance à peler au niveau de l'écorce, et il y a de la sève qui coule, et ça attire les frelons asiatiques. ce que je ne savais pas.
Alors, Isabelle, je vais directement vous donner deux, trois petites infos. L'eucalyptus, c'est un arbre qui parchemine. C'est-à-dire qu'il renouvelle son écorce, en, comme un peu les lilas des Indes, en évacuant l'ancienne. Donc, systématiquement, le voilà qui vous fait des rouleaux de papyrus, pratiquement, là, qui se décollent, que l'on enlève, etc. Je reviendrai sur ces rouleaux de cellulose après. Juste pour info, un eucalyptus, quand on le plante, on sait qu'il va tuer la concurrence tout autour sur 5 à 7 mètres. Vis-à-vis... Derrière, vous avez, je vois un claustra en bois. C'est la limite du voisinage derrière.
Oui.
Bon, alors à minimum et obligatoirement même 2 mètres de cette limite, puisque c'est un arbre qui va largement dépasser les 2 mètres, puisqu'il prend 1,50 m dans l'année quand tout va pas trop mal et quelques fois plus. Alors, attention, l'eucalyptus, évidemment, au sol, avec ses racines, plus les feuilles qui dégringolent, parce que malgré tout, il renouvelle ses feuilles, ça va tuer toute vie autour. Ça, c'est quand même important à savoir. Alors après, qu'importe la variété, hein, si c'est un Euphophila, un Guni, il y en a un qui s'appelle d'abord Guni France Bleu, qui est très beau. Ah. Et oui, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Bon, donc, je reviens sur le parchemin. Qui se décolle de l'écorce. Alors ça, c'est la nourriture favorite des frelons asiatiques, hein, puisqu'il faut bien qu'ils construisent leur nid avec de la cellulose. Et là, génial, elle est toute décollée, toute prête. Donc,
Okay. Si... hyper contente, tout ce que je voulais pas.
Bon, alors voilà. Première chose, vous prenez des gants, vous pouvez frotter, enlever, ça va déjà en enlever pas mal. Ensuite de quoi, quand on veut capter des frelons asiatiques, ben, ma foi, on le met loin de l'endroit où on ne veut pas les voir. C'est-à-dire que votre piège à frelons asiatiques sur la photo qui est accrochée sur l'eucalyptus, pas question. Vous le mettez à 3 mètres, 4 mètres de l'eucalyptus, mais pas sur l'eucalyptus. Parce que là, du coup, vous leur mettez un panneau luminescent. Venez, venez, il y a à manger, c'est gratuit. Donc ça, c'est pas terrible non plus. Et pour finir, l'eucalyptus, son nom français, c'est le gommier. Donc le gommier, ben ma foi, pareil, hein, il fournit de la matière à beaucoup d'insectes, du casse-croûte qui est tout près. Donc ça fait beaucoup de choses contre vous. Je m'interrogerai très sincèrement sur l'avenir de cet eucalyptus dans le jardin.
Ben moi c'est fait. Vous m'avez donné toutes les réponses, donc voilà.
Oui, mais il est très joli quand même.
Il est très beau, mais en sachant que j'ai un jardin qui fait 150 mètres carrés, et que je tiens beaucoup à mes noisetiers et aux pommiers, surtout à mon voisinage.
Oui.
Voilà.
Bon, oui. Au revoir, l'eucalyptus.
Oui, adios, amigos. Et voilà.
Et bonne tronçonneuse à vous, Isabelle.
Oui, ben, je vais demander de l'aide des copains. Voilà.
Oui, voilà. Ah bah, voilà.
À l'apéro ce
sur le
soir.
Coup de, vous allez voir, sur le coup de 19h, vous aurez beaucoup de potes à venir.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Bon dimanche à vous, Isabelle, et courage.
Merci beaucoup. J'ai bien travaillé, merci.
Dans un instant, Jean-Louis, nous allons parler de petits animaux dans le jardin qui ne sont pas tout à fait des biches.
Ah, salut, c'est Landry Verdi.
Sur les routes du bonheur et de l'envie.
Retrouvez-moi en live dans la nouvelle scène Aquitaine. Sur France Bleu.
Elle est partie pour une entre le matin au petit jour. Elle s'est jouée de mon cœur comme d'un vieux tambour.
La nouvelle scène Aquitaine, ce dimanche à 14h sur France Bleu Périgord. Oh Chantal, magnifique ton pool house. Mais où est donc la piscine?
Eh bien, figure-toi que mon pool house Akena est multifonction.
C'est vrai?
Parfaitement. Cuisine en été, local de rangement en hiver, espace de jeu pour les petits-enfants et même salle de sport. Ça t'embauche un coin, non?
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Périgord, ici, on parle d'ici.
Votre jardin à 9h31 avec Jean-Louis et vos questions au 05 53 53 82 82. Nous allons à Bad Folle-Dense. Jacqueline, bonjour.
Oui, bonjour messieurs.
Et comme je le disais il y a une minute, ce ne sont pas tout à fait les biches qui apprécient votre jardin.
Non, pas tout à fait. Non, effectivement. Ben, j'ai découvert fortuitement des petites limaces blanches. J'enlevais des pieds d'artichaut qui commençaient à piquer un peu du nez. Et sous chaque pied, j'ai découvert, bon, ce qui s'est avéré être des limaces blanches, mais qui sont carnivores parce qu'elles mangent les vers de terre.
C'est ça. Et oui, oui. C'est une vraie catastrophe, cette limace.
J'en ai trouvé petit à petit en continuant à nettoyer le jardin. Donc je détruis au fur et à mesure.
Bien sûr.
Mais je ne comprends pas d'où ça vient. Parce que je n'ai jamais vu ce genre de...
Alors là, moi non plus, je vous avoue, une limace blanche...
Alors, il y a quelques années, des cas avaient été signalés en Poitou-Charentes.
C'est ça, je suis allée voir sur Internet.
Vous avez vu ça vous aussi, donc c'était, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Bon, à la vitesse où se déplace une limace, il faut quand même pas pousser. Maintenant, vous savez bien que le commerce de plantes, quand vous achetez une plante en pot, vous achetez tout ce qu'il y a dans le pot. Hein. Donc,
voilà.
Tout est possible, transfert d'une pépinière à une autre, et ainsi de suite. Donc, la lutte, parce qu'évidemment, les anti-limaces ne fonctionneront pas, puisqu'elles elles ne sont pas attirées du tout par les produits que l'on met dans les anti-limaces habituelles.
Donc, elles vont en profondeur, en plus.
En plus, elles vont en profondeur pour se nourrir, puisqu'elles vont dégommer alors quasiment toutes les espèces de lombriques et puis d'autres larves du sol également.
C'est ça.
Donc, à part l'élimination manuelle, au jour d'aujourd'hui, j'ai rien vu. Alors, je suis à la retraite là depuis plus d'un an, mais j'ai rarement eu de cas dans ma vie professionnelle et surtout, j'ai pas vu de produits spécifiques. Alors, tant que c'est pas un fléau, ma foi, les grandes firmes ne cherchent pas de nématode ou d'un prédateur quelconque. Mm-hmm. Un jour ou l'autre, ça le viendra peut-être, mais dans l'immédiat, non. Et c'est vrai que quand on les voit, faut pas se dire, bah tiens, c'est une larve d'escargot ou autre. Non, on les prend et on les détruit. Ça, c'est...
Oui, j'ai détruit, parce qu'en plus, c'est assez gros. C'est dommage, on avait fait des photos, je pourrais vous les envoyer, mais je n'ai pas Facebook, donc je ne sais pas comment je peux faire pour vous les envoyer.
Par simple courriel, bleupérigord@radiofrance.com, tout simplement. bleupérigord@radiofrance.com.
D'accord, voilà. Je vais vous les envoyer.
Eh ben, voilà. Et vous savez pas, je vais regarder parce que c'est pas quelque chose de courant. Je vais regarder un petit peu ce que je trouve comme info, quitte à passer un coup de fil à un collègue qui est dans l'agronomie. Et puis j'en parle dès que j'ai une réponse. Hein. Comme vous êtes une fidèle auditrice, j'imagine. Eh ben, je relancerai le truc dès que j'ai l'info.
Voilà, l'enquêteur est sur la piste.
Sur Bleu Périgord, je mets pas l'accent sur Périgord.
Non, pas d'accent, tout en minuscule.
Voilà, pas de souci.
@radiofrance.com. Merci à vous, Jacqueline. Oui. Bon dimanche à Bad Folle Dance.
Merci à vous. À
bientôt.
Aussi, bon dimanche. Au revoir.
Merci, au revoir.
Nous allons parler chansons à présent, Jean-Louis, car vous êtes également féru en chansons. Nous sommes en 1962 et Sacha Distel sort le titre Marina.
Oh bah, je m'en rappelle, j'ai donné.
Bien sûr. Elle est devenue un standard de jazz l'année d'après, lorsque le chanteur américain Tony Bennett l'a enregistré, mais sous un autre titre, The Good Life. Ce qui a donné l'envie à Sacha Distel de réenregistrer cette chanson sous le titre, Jean-Louis, effectivement, de...
Oh la belle vie.
C'est la chanson de sa vie.
Toutes les chansons de votre vie sont ici, sur France Bleu.
Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. la belle vie. On s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Ah, c'était quand même mieux que Marina, hein, la belle vie. Sacha Distel.
9h-10h, on jardine sur France Bleu Périgord.
Et vos questions à Jean-Louis ce matin, 05 53 53 82 82. À Saint-Martial-d'Artancé, Daniel, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous vous amusez avec des rosiers, Daniel.
Tout à fait. Alors, à l'automne, j'ai fait des boutures de rosiers. J'ai eu 100% de réussite, sont toutes prises. Il y a un mois de ça, je les ai mis dans des pots, je les ai rempotés. Et maintenant, ils ont tous des boutons floraux. Est-ce qu'il faut les laisser s'éclore ou alors est-ce qu'il faut les couper?
Dites voir, Daniel, quelle dimension font les plants là en ce moment?
En ce moment, ils font une dizaine de centimètres.
Bon, eh ben, la fleur, c'est pas l'urgence. Moi, je vous dirais de la pincer, de l'enlever. Le but, c'est que la plante se ramifie au maximum. Et voilà. Les fleurs, on est au mois d'avril, hein. Elles étaient sous abri, certainement.
Ah oui, bien sûr, oui.
Voilà. Donc, c'est pas l'urgence du moment. Le but, là, c'est que les plants se durcissent, se ramifient et commencent à fleurir normalement quand ce sera l'époque, c'est-à-dire au mois de mai, et vous fassent un bel été de fleurs. Si vous laissez fleurir, ça va épuiser la plante et vous aurez même des boutons qui vont être des boutons avortifs. C'est-à-dire que la plante a envie de fleurir, mais elle a pas la vigueur pour fleurir. Donc, vous aurez des trucs qui ressembleront pas du tout aux roses sur lesquelles vous avez prélevé les boutures. Donc, aucun intérêt, vous pouvez le faire dès aujourd'hui et puis commencer un petit peu d'engrais si ce n'a pas déjà été fait, de façon à ce que les plants, vous les avez mis dehors là, ça y est.
Ah, dehors, ils sont dehors, oui, bien sûr.
Bon, ben, impeccable. Eh ben, vous pincez, vous les nourrissez et puis les vraies fleurs arriveront quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, c'est aucun intérêt.
C'est bien ce que je pensais, que ça allait user, fatiguer le pied. Quoi.
Nous sommes donc bien d'accord.
juste une petite question supplémentaire. J'ai un pied de rhubarbe.
Oui.
Il est planté l'an dernier, il a été magnifique, tout ça. Maintenant, il repart, il y a une grosse florescence qui apparaît, c'est pareil.
Vous l'enlevez? Oui, vous l'enlevez. Ce qu'on lui demande, c'est de faire des tiges et des feuilles, c'est pas fleurir. Donc, vous l'enlevez, vous en profitez autour pour y mettre 2-3 pelletées de compost, un peu de paille, et puis ça y est, elle va redémarrer un cycle. Bon, bah, tout va bien.
Voilà, je vous remercie beaucoup, Jean-Louis.
Bonne journée à vous, Daniel.
À vous aussi, au revoir.
Direction Chalagnac à présent, Jean-Louis. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez une interrogation concernant un pommier.
Voilà, c'est ça. J'ai un pommier que je voudrais greffer. Alors, il a un diamètre de 4 cm à peu près. Donc, une grosseur assez normale. Alors, je voudrais savoir si c'est la bonne période maintenant.
Ah, il est plus que temps. Il est plus que temps. Vous avez déjà les greffons?
Oui.
Ils étaient où, ces greffons, en attendant?
Eh bien, c'est-à-dire que, voilà, c'est un pommier, c'est une vieille une variété ancienne.
Oui.
Et je voudrais me servir de ces greffons-là.
D'accord.
Mais là, je les ai, mais je peux en trouver facilement. De les prendre sur place et de greffer tout de suite éventuellement.
Alors, bon, ça peut être tenté. Maintenant, en général, les greffons, on les prélève 3 semaines, 1 mois avant, de façon à attendrir le bois. On les met dans du sable, de façon à ce que le bois puisse facilement se lier au porte-greffe. Donc, bon, vous pouvez le tenter, ce qu'on fait en greffage direct, c'est-à-dire vous allez prélever et vous allez faire votre greffage. Pour essayer, on va dire, d'optimiser, vous mettez 2-3 greffons par section. Hein, vous allez faire des greffes enfantes, j'imagine. Donc,
oui,
vous allez mettre 2-3 en espérant qu'il y en ait au moins une à prendre, parce que les greffons n'ont pas été préparés. Donc ça, c'est pas l'idéal.
D'accord.
Oui. Mais faut le tenter. On est rendu là bientôt à la mi-avril. La sève est montée. Oui, Il faut tenter, et puis si ça marche pas, vous, l'année prochaine, au mois de février, vous penserez à prélever à nouveau des greffons, vous en faites des petits paquets avec, ou un petit paquet avec un élastique pour bien les tenir ensemble, un pot avec du sable, vous les installez de moitié, ou vous les mettez dans le, il y a certains, comment dire, jardiniers qui les mettent au réfrigérateur avec un petit sopalin humide dans un sac plastique de façon à attendrir un petit peu le bois, c'est plus facile pour la reprise. Donc, on croise les doigts, mais il faut que ce soit fait là, cet après-midi ou demain.
Voilà, on y va, Pierre. Voilà. Hein. Bonne journée à vous, bon dimanche à Chalagnac.
Merci beaucoup.
Vos questions à Jean-Louis ce matin, 05 53 53 82 82. Lui a commencé à apprendre le violon à l'âge de 3 ans. Je plains ses parents, Noé Préchoff.
Le début et la fin, le chagrin inouï et les joies éternelles, le passé incomplet, l'avenir incertain. Ici un coup de feu, là un battement d'ailes. Toutes les régressions, toutes les avancées, les mains qui se frôlent sur la banquette arrière, les premières amours et les derniers baisers, le début du parcours et la fin d'une guerre. Une chanson qui dirait l'entrée et la sortie, la rage indélébile et la paix qui sommeille, la minute de trop, soudain tout vacille, et les heures infinies à fixer le soleil, les écrans que l'on brise et ce que l'on réclame. Tout seul à la séance, un soir de nouvel an, la détresse d'un rire, la puissance d'un drame, en un mot la magie d'être toujours vivant. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme profonde. Une chanson qui dirait la nuit qui se déhanche et le jour qui se lève, la tête dans les mains, les vitrines en miettes et le vent dans les branches, les révoltes d'hier et celles de demain, l'adolescence fiévreuse noircissant chaque page pour échapper aux cages que déjà elle pressent, la vieillesse implorant qu'il y ait dans les parages des passants pour lui dire l'heure qu'il est maintenant. Une chanson qui dirait la Méditerranée, les rêves qui prennent l'eau et l'été qui revient, les mêmes affrontements depuis l'éternité, la hache de l'histoire qui brise les destins, l'arrogance d'en haut et la colère d'en bas, les étoiles qui brûlent au-dessus du chaos, les navires immobiles sous le ciel d'Odessa, et Téhéran debout qui chante Bella Ciao. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme profonde. Une chanson qui dirait les mains qui se détachent, le cœur qui ne bat plus comme au premier matin, les chutes qui s'imposent, les victoires qu'on arrache, les voix que l'on oublie et les mots qu'on retient, le désir d'être seul dans une ville inventée, puis d'être auprès des siens parce que tout part en vrille, une partie d'échec au bistrot d'à côté, la violence des frontières, la beauté des pays, le courage de faire et celui de défaire, avoir été si loin et tout recommencer, l'espérance d'une sœur, l'espérance d'un frère, sentir que tout s'écroule et quand même chanter, cette foule euphorique pour un match de foot, la cour de récré à 8h du matin, le chant des certitudes, le vacarme du doute, l'infini de la route, et tes yeux dans les miens. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme profonde, l'intime et le monde.
L'intime et le monde avec Noé Préchoff.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
On jardine avec les bons conseils de Jean-Louis. Nous sommes à Tourtoirac. Denise, bonjour.
Bonjour.
Votre citronnier vert est magnifique.
Oui, c'est pas pour moi, c'est pour mon voisin. Et alors, hier, il s'est aperçu qu'il y avait des feuilles, qu'il y avait des taches de brûlé, voyez. dessus ses feuilles. Et elle recobille un petit peu, sans recobiller. Un petit peu. Pas toutes, hein, pas toutes, mais certaines. Alors, il a mis de la bouillie bordelaise, mais je pense que c'est pas assez.
Alors, c'est certainement pas assez. Maintenant, il a passé l'hiver où, ce citronnier vert ?
Sur sa terrasse.
D'accord, parce que le citronnier vert, alors autant les autres, on en parle souvent, hein, des citronniers dans notre rubrique, autant oui. Les autres, bah, ma foi, moins 4, moins 5, ça se passe pas trop mal, faut juste accepter que la plante change un peu d'aspect à la sortie de l'hiver, on taille et ça redémarre, que le citronnier vert, c'est un citronnier presque tropical. Donc c'est un citronnier qui, lui, moins 1, moins 2, c'est le grand maximum qu'il va pouvoir supporter.
Oh, donc, mais il n'y a pas gelé, c'est pour ça. Hein.
Ah, bah, il a ramené
de Toulon, c'est pour ça.
Ouais. Alors, il n'a pas gelé, je ne sais pas dans quel coin de Dordogne vous êtes, mais enfin, on a quand même eu quelques petites descentes au mois de décembre-janvier, qui fait qu'il a quand même été un petit peu chatouillé, je pense, par le froid.
Oui, mais là, il était à Toulon. Hein. Ils sont rentrés il y a deux mois de Toulon, vous voyez.
Oui, mais lui, le citronnier, il était où pendant tout ce temps-là?
À Toulon. À Toulon.
Ah, il passe l'hiver sur la côte, donc tout va bien pour lui.
Voilà.
Alors, il y a un cumul de plusieurs choses. Je pense qu'il a eu du stress hydrique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des moments où il n'a pas eu assez à boire, parce que quelquefois on oublie un peu de les arroser parce qu'ils sont en pot. Donc ça serait le bon moment de faire un petit griffage du sol, de réapporter du terreau, de lui mettre de l'engrais. Ça serait le bon moment de le tailler, parce que là, c'est l'époque où on les taille pour les régénérer. C'est un grand citronnier, quelle hauteur fait-il ?
Non, il n'est pas grand, hein. Il est tout jeune, il a quoi, 50 cm à peu près.
Alors, 50 cm, ben, un petit coup de sécateur de 4-5 cm sur toutes les pointes, il enlève les feuilles tachées, parce que de toute façon, pour celle-là, il ne pourra plus rien y faire. Moi, je pense qu'il a pris du stress hydrique, hein, que ce n'est pas la maladie. La bouillie bordelaise qu'il a mis dessus n'a pas gêné. L'urgence, ce serait coup de sécateur, fertilisation, avec un petit griffage du sol, pour avoir un petit peu de régénération de la plante. Sans rien de plus, et ça ira très bien pour lui. Plein soleil, évidemment, maintenant, jusque fin mai, puis fin mai, début juin, bah, la plante change de côté. Le soleil, la moitié de la journée, c'est suffisant jusqu'au mois de septembre, et on les remet en plein soleil à partir du mois de septembre.
Oui, d'accord.
Voilà.
Bon, eh bien, je vais lui dire alors. Hein.
Voilà, il a bien de la chance de passer l'hiver sur la côte,
beaucoup.
Quand même.
Oui, c'est bon sûr. Bonne journée à vous à Tourtoirac. Nous allons à présent à Allemand, Jean-Louis. Valérie, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Louis, bonjour à vous.
Vous avez un souci avec votre olivier. De quoi s'agit-il ?
Alors, le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui grignote toutes les jeunes feuilles.
D'accord. Alors, c'est mangé en totalité ou ça fait juste des petites attaques par le bord de la feuille ?
Non, c'est mangé sur la pointe.
C'est mangé sur la pointe. Alors ça, c'est juste une petite arpenteuse. C'est une toute petite chenille. Alors, pour tomber dessus, il faut avoir des bons yeux. Hein. C'est un peu comme les cigales sur les arbres. On les entend chanter et avant de les trouver, c'est pas facile. Et ben là, elle se balade sur la plante. Et puis, ben, ma foi, tout ce qui est tendre est bien meilleur. Donc, du coup, elle s'attaque aux jeunes pousses. Alors, d'abord, est-ce que cet olivier a été taillé ?
Non, c'est pas.
Non ? Est-ce qu'il a besoin d'être taillé ?
Non, parce qu'il est beau, hein.
Il est beau. Bon, bah, vous savez, même s'ils sont beaux, un petit coup de sécateur de temps en temps pour empêcher les branches qui se croisent, etc., ça lui fait pas de mal. Quelle hauteur fait-il ? 2-3 mètres ?
50.
Ah, bon,
1 mètre 50, 2 mètres 50.
Bon,
1 mètre 50.
1 mètre 50, donc ça va être facile à traiter. Dans vos produits, si vous avez un produit pour le ver du poireau, pour la pyrale du buis, pour les chenilles, hein, le fameux produit à base de Bacillus thuringiensis, comme c'est une petite mineuse, ma foi, vous allez pouvoir traiter le plus vite possible avant la pluie de cette nuit, ou sinon vous laissez passer l'épisode pluvieux et vous traiterez juste après. Juste pour info, c'est pas une chenille qui va faire un dégât mortel sur la plante. C'est juste un côté esthétique qui est pas beau pendant 15 jours, parce qu'il faut bien que la chenille se développe pour finir par nymphoser et partir en papillon, donc il faut qu'elle casse la croûte. Donc il n'y a pas de danger sur la plante, c'est juste le côté esthétique que je comprends. Hein. Si vous voulez les éliminer, il n'y a pas de problème. C'est à base de BTK, donc le même produit que pour la pyrale du buis. Vous pulvérisez de la tête aux pieds, dessous, dessus. Peut-être que accessoirement vous allez tomber. C'est des chenilles qui font un peu plus d'un centimètre et demi, toutes fines, et qui se déplacent en arpentant. Vous savez, c'est celles qui se recroquevillent pour avancer, là. Donc, c'est pas un très gros problème. Excusez-moi,
pardon,
la ligne est mauvaise.
La chenille, elle n'est pas de couleur verte fluo.
Non, c'est pas celle-là. Elle est plutôt dans les tons légèrement bruns. Mais de toute façon, si c'est une verte fluo qui est dessus, ça peut être aussi un autre type de chenille qui sera pas une arpenteuse, mais elles seront intoxiquées de la même façon avec le produit. Donc, allons-y avant la pluie ou après la pluie.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Valérie. Bon dimanche à Allemand. Oui, avant la pluie ou après la pluie, parce que Jean-Louis, je ne sais pas certain que ce soit une bonne nouvelle, mais on annonce le retour des pluies ce soir. Je me demande si on en avait besoin au jardin.
Ah, oh, bah oui, il y avait du pollen et de la poussière du Sahara sur
les
bagnoles.
Ah oui, vu sous cet angle, oui.
Il était temps d'intervenir.
Oui, mais enfin, il était temps petit navire aussi, parce que là, on commence à se noyer au jardin.
Ouais, d'accord, ok. Bon, ça dépend des terrains. Voilà.
Oui, car il y a des terrains qui peuvent absorber plus facilement l'eau, naturellement.
C'est ça. Et alors, tiens, une petite astuce, puisque on arrive dans une époque où, dès qu'il y a 2-3 jours de belles températures, les jardiniers auraient tendance un petit peu à s'affoler pour certains. Il y en a qui veulent déjà semer des haricots ou autres. Mm-hmm. Alors, préparer le terrain, par exemple, pour des haricots. Excusez-moi, je reprends le fil de mon truc.
On prépare
un petit coup de préparation du sol, la fertilisation, et puis on met une bâche. On a toujours des bâches, les jardiniers, qui traînent. Alors, transparente, pas transparente, une bâche à bois, et on le met pendant 15 jours, 3 semaines, de façon à ce que le sol qui est en dessous ne reçoive plus les précipitations que vous annoncez, parce que c'est vous le responsable des pluies. Hein. La terre va chauffer en dessous, elle va monter tranquillement à 17-18 degrés, et bam, dans 15 jours, vous semez des haricots qui germeront en 3-4 jours. Voilà.
Et n'oublions pas que le haricot voit partir le jardinier. Merci pour vos bons conseils, Jean-Louis. Un bon dimanche à vous.
Pareillement, belle semaine.
Et à la semaine prochaine.